Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On vous explique ce matin sur RMC le nouveau regain de tension au Moyen-Orient, où les États-Unis ont donc annoncé un nouveau blocus, un blocus du détroit d'Ormuz. Ça a déjà pour effet, vous verrez, de faire flamber les prix du pétrole. On sera en Hongrie dans ce journal avec notre envoyé spécial au lendemain de la défaite du nationaliste Viktor Orban et la victoire du camp pro-européen aux législatives. Les dirigeants en Europe s'en félicitent, vous allez voir. Et on verra aussi ce qui va se jouer en fin de journée au ministère du Travail, réunion avec les syndicats. On est en plein bras de fer, vous savez, sur le travail le 1er mai.
Et ça recommence donc ce matin. Les cours du pétrole repartent à la hausse.
Au-dessus des 100 dollars le baril, oui, après l'échec des négociations au Pakistan durant le week-end. Et avec donc cette annonce des Américains, on va tenter de comprendre ce qui va se passer avec vous, Romain Houk, pour RMC. Les Américains annoncent un blocus des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz à partir de cet après-midi.
Oui, le blocus doit commencer à 16h, heure française. La marine américaine a donné des précisions. Il concerne tous les navires qui entrent ou qui sortent des ports et des zones côtières iraniennes, mais pas ceux qui transitent en direction ou depuis des ports d'autres pays. L'idée, c'est donc de placer des navires de guerre au bout de la péninsule arabique, de contrôler le trafic naval pour asphyxier l'économie iranienne en l'empêchant d'exporter et de vendre son pétrole. Pour contrôler le trafic maritime dans la zone, les États-Unis assurent que deux destroyers sont déjà positionnés sur place et que des opérations de déminage ont commencé. C'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'heure de cette opération américaine qui reste, de l'avis de nombreux experts, encore très flou. Pour combien de temps ? Aucune durée n'a été précisée. Et puis, qu'en est-il du cessez-le-feu ? Est-il toujours en vigueur après l'échec des négociations au Pakistan ? C'est pour l'heure encore difficile à dire. En tout cas, Donald Trump a assuré hier soir, je cite, qu'il s'en fichait de savoir si les Iraniens allaient ou non revenir s'asseoir à la table des négociations.
Et pourtant, on ne finit plus de mesurer les conséquences de ces tensions au Moyen-Orient, comme dans le département de l'Ain, donc chez nous en France, où une usine spécialisée dans les emballages plastiques et donc dépendante de tous les dérivés du pétrole est obligé de fermer cette semaine jusqu'à dimanche. Victime de la flambée des prix, c'est ce que nous dit le correspondant de RMC dans la région, Vincent Chevalier.
Dans cette usine, des petites billes en plastique deviennent des bacs et des palettes. Mais depuis un mois, le prix des matières a doublé et les commandes se font rares. Alors pour limiter la casse,
on a décidé de stopper la production. On a fixé une semaine de fermeture.
Fabrice Bachelier est le directeur général d'UTS France.
On a préféré d'une manière collective organiser les congés qui restaient et fermer l'entreprise. Va rester une dizaine de personnes qui vont affecter à des travaux de maintenance.
Décision pas facile à encaisser pour les 90 salariés, tout de même bien conscients de la baisse d'activité.
On est dans le plastique, on est dans le transport. Là, il y a beaucoup d'inquiétudes. Moi, je le vois dans l'équipe, on se pose beaucoup de questions.
C'est un peu compliqué à gérer, mais bon, on sait que derrière, si ça reprend de plus belle, c'est peut-être mieux d'avoir une petite pause.
Un avenir très incertain. Il reste quelques commandes à honorer jusqu'en juin. La suite dépendra de l'issue du conflit.
C'est pesant, les nuits sont compliquées. Je vous le cache pas en ce moment. On espère que les vacances et puis à la rentrée, tout sera réglé. Mais j'ai quand même un peu des doutes et j'ai beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir.
Le patron ne s'en cache pas. Des licenciements pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.
RMC est en Hongrie ce matin. Vous savez qu'on est au lendemain d'élections législatives qui étaient très suivies dans ce pays, souvent à rebours des décisions européennes ces dernières années. Marqué par la victoire donc dans ce pays du candidat pro-européen et par la défaite surtout du nationaliste Viktor Orban, pro-russe, soutenu par les Américains. Au pouvoir depuis 16 ans, Viktor Orban, les dirigeants européens applaudissent donc le résultat de ce scrutin. Célestin Bougère, vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Budapest, c'est la capitale de la Hongrie où le nouveau leader prénommé Péter Magyar promet de faire changer la direction de son pays.
Et oui, c'est un des slogans scandés avec le plus de passion dans les rues de Budapest depuis hier soir. Les Russes dehors, des chants, des scènes de liesse, les klaxons qui ont duré jusqu'à très tard dans la nuit sur les quais et dans tout le centre-ville. S'il que les Hongrois qui ont voté contre Viktor Orban voient dans ce résultat une libération, la fin de relations privilégiées avec la Russie de Vladimir Poutine qui ont complètement isolé la Hongrie du reste de l'Europe, du reste de l'OTAN. Il a récemment été révélé que le ministre hongrois des Affaires étrangères aurait transmis à la Russie des informations sensibles discutées pendant les sommets de l'OTAN. C'est en partie pour cela que Péter Magyar a été élu. Lui aussi est un conservateur. C'est un ancien du Fidesz, le parti de Viktor Orban, mais il a fait campagne sur une vision pro-européenne, ce qui laisse présager de bien meilleures relations avec le reste de l'UE. La Hongrie, ces derniers mois, a notamment posé son veto pour empêcher l'envoi d'aide financière à l'Ukraine et la mise en place de nouvelles sanctions contre la Russie. Viktor Orban était aussi un exemple pour toute l'extrême droite européenne, à commencer par Marine Le Pen, qui lui avait apporté son soutien. C'est une défaite pour ce camp. Le regard des Hongrois est maintenant tourné vers l'Ouest, vers l'Union européenne.
C'était Célestin Bougère en direct de Budapest ce matin, RMC, en direct donc de Hongrie. On va assister à une première historique aujourd'hui. Le pape Léon XIV sera en Algérie. Visite de 2 jours, début d'une tournée internationale pour lui. C'est la première fois surtout qu'un pape se rend dans ce pays à majorité musulmane. Visite donc placée sous le signe du dialogue entre islam et christianisme. Chez nous en France, on débat encore ce matin de la proposition de loi visant à autoriser le travail le 1er mai. Finalement, ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale vendredi. Romain Cluzel du service politique RMC est avec nous en direct ce matin. On est en fait au cœur d'une bataille politique. La gauche menace de censure et les syndicats sont convoqués au ministère du Travail en fin de journée.
Oui, l'exécutif espère encore pouvoir calmer les esprits. En pleine crise des prix de l'énergie, Sébastien Lecornu tente d'éviter que les syndicats descendent dans la rue et tente d'éviter les menaces de censure venues des socialistes et des communistes. D'où cette réunion ce soir au ministère du Travail avec les principaux syndicats. Le ministre Jean-Pierre Farandou doit travailler sur le périmètre des commerces concernés, c'est-à-dire ceux qui seront autorisés ou non à ouvrir le 1er mai. Pour l'instant, cette liste est beaucoup trop large pour les syndicats. Le gouvernement souhaite par exemple retirer les supermarchés de cette liste, une première concession qui ne satisfait pas les opposants au texte. L'exécutif vise toujours une application de la réforme dès ce 1er mai, mais une conseillère gouvernementale l'admet. Plus les discussions se prolongent, plus cette perspective s'éloigne.
C'est une nouvelle journée de mobilisation qui commence devant les tribunaux contre le projet de réforme du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui veut l'accélérer en créant notamment un dispositif de plaider coupable auquel s'opposent avocats et magistrats. C'est en fin de journée que le verdict est attendu aux assises d'Aix-en-Provence où des chefs présumés de la DZ Mafia, les narcotrafiquants, sont jugés depuis un mois pour un double assassinat dans la région de Marseille en 2019. On a beaucoup parlé de ce procès sur RMC. Avec vous, Pierre Bazin, vous le couvrez depuis le début et vous nous dites que des peines allant jusqu'à la perpétuité ont été requises.
Oui, il aura fallu attendre les derniers moments de ce procès pour que les charges retenues contre les accusés soient clairement énoncées et défendues. L'accusation aura parfois eu 5 petites minutes de parole par jour au milieu des nombreux incidents menés par la défense, dénonce l'une des avocates générales, faisant référence au chaos quotidien des audiences. L'accusation prend le temps de lire les messages attribués à l'un des accusés dans lesquels il explique surveiller en direct le quotidien de l'une des victimes. Pour certains mis en cause, ce sont des écoutes, pour d'autres des incohérences dans leurs réponses ou des témoignages à charge qui sont retenus. Les magistrats rappellent que des témoins ont refusé de venir déposer à la barre, préférant, je cite, prendre une amende plutôt qu'une balle. Les deux avocates générales insistent sur la dangerosité des accusés et évoquent une architecture du crime qui nécessite des peines sévères. En réaction à ce réquisitoire, certains avocats de la défense ont qualifié ce procès de politique et scandaleux.
On l'attendait, tiens, pour la première fois hier soir en Ligue 1 de football, des explications d'un arbitre ont été diffusées dans les enceintes d'un stade après une décision de la VAR.
Après visionnage, faute du numéro 77 de Lorient, décision finale, pas de pénalty, coup franc.
Voilà, c'était hier soir à Lyon pour un pénalty refusé donc à Lorient. Décision saluée comme un but d'ailleurs par le public de Lyon qui a gagné 2-0 lors de cette 29e journée de Ligue 1. Qui n'est pas encore terminé, les matchs de Paris et Strasbourg étant décalés avec les Coupes d'Europe cette semaine. Et puis tiens, il y aura 2 clubs français en demi-finale de Champions Cup de rugby, premier week-end de mai, Toulon le samedi chez le Leinster, Bordeaux le dimanche contre Basse, les Bordelais qui ont encore sorti Toulouse hier après-midi 30-15 en quart de finale.